Bonsoir, bienvenue à cette soirée avec des textes érotiques, soirée littéraire et musicale. On avait prévu la conférence de Jean-Luc Nancy ce soir, je suis désolé de ne pas avoir Jean-Luc le faire, mais Jean-Luc Nancy était dans l'impossibilité de venir à Lausanne. Nous avons essayé de trouver une date plus tard avec lui, ça pourrait être encore avant l'été ou peut-être même en octobre. Comme il y a une soirée de livres, nous reprenons un événement qui a déjà été qui a déjà eu lieu au Café littéraire de Beuvais. Donc le groupe gaudois a fait un événement hors maison de quartier, hors Lausanne, à Beuvais, avec textes érotiques et musique. C'était déjà, comme ce soir, les récitants sont Carole Dubuis, Philippe Clark, Michel Valmont et David Campbell. Par contre, le musicien n'est pas le même à Beuvais. Ce soir, c'est Luc Muller, qui était déjà intervenu au Nouveau de la philosophie lors de la soirée Artaud, dans le cadre de la saison sur la folie. Certains de vous. Il y a quand même un peu de Jean-Luc Nancy ce soir, parce que parmi les nombreux textes qui vont être lus, il y aura quelques brefs extraits de textes de Jean-Luc Nancy. Invité à essayer de repérer. De manière générale, je pense que vous allez. Parfois, ça va être assez difficile de deviner qui est l'auteur du texte. Le secret sera le de la sortie. On vous remettra les textes avec les noms des auteurs. Vous pouvez savoir qui sont les auteurs. Pour la soirée suivante, qui est celle du 13 mai, elle sera consacrée au thème de la prostitution. Nous l'avons organisée en collaboration avec l'association Asphalie de Genève, qui défend les travailleurs du sexe. Et nous aurons deux travailleurs du sexe qui viendront parler de leur travail et qui discuteront. Ce sera le mercredi 13 mai.
Je te rencontre.
Je me souviens de toi.
Qui es-tu ?
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour ?
Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même ?
Tu me plais. Quel événement ! Tu me plais.
Quelle lenteur, tout à coup.
Quelle douceur.
Tu ne peux pas savoir.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
J'aime tant.
Je t'en prie.
Déforme-moi.
Déforme-moi jusqu'à la laideur.
Pourquoi pas toi ?
Pourquoi pas toi ? dans cette ville et dans cette nuit pareille aux autres, au point de s'y méprendre.
Je t'en prie.
Il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut rien faire de pareil avec une femme. Il ne peut pas arriver à dire l'effet que lui fait cette demande de sa part. S'il acceptait, il risquerait de ne plus vouloir la voir, jamais, et peut-être même de lui faire du mal. Il lui faudrait quitter la chambre, l'oublier. Elle dit que c'est le contraire, qu'elle ne peut pas l'oublier, que du moment que rien ne se passe entre eux, la mémoire reste infernale de ce qui n'arrive pas. Elle le fait elle-même avec sa propre main devant lui qui la regarde. Dans la jouissance, elle appelle, on dirait, une sorte de mot très bas, très sourd, très loin. Une sorte de nom, peut-être. C'est sans aucun sens. Il ne reconnaît rien. Il la croit porteuse d'une clandestinité naturelle, sans mémoire, faite d'innocence, de disponibilité sans repère. Il dit, je voudrais que vous m'excusiez. Je ne peux pas être autrement. C'est comme si le désir s'effaçait lorsque je m'approche de vous. Elle dit qu'elle est aussi comme ça ces temps-ci. Il dit qu'elle a dit un mot, un moment, un nom, comme un mot étranger. Elle dit qu'elle appelait quelqu'un dans la détresse de jouir. Il sourit et lui dit, je ne peux pas exiger de vous que vous me disiez tout de vous. Même avec de l'argent.
La caresse est un mode d'être du sujet où le sujet dans le contact d'un autre va au-delà du contact. Le contact en tant que sensation fait partie du monde de la lumière. Mais ce qui est caressé n'est pas touché à proprement parler. Ce n'est pas le velouté ou la tiédeur de cette main donnée dans le contact que cherche la caresse. Cette recherche de la caresse en constitue l'essence par le fait que la caresse ne sait pas ce qu'elle cherche. Ce ne pas savoir, ce désordonné fondamental en est l'essentiel. Elle est comme un jeu avec quelque chose qui se dérobe, et un jeu absolument sans projet ni plan. Non pas avec ce qui peut devenir nôtre et nous, mais avec quelque chose d'autre, toujours autre, toujours inaccessible, toujours à venir. La caresse est l'attente de cet avenir pur, sans contenu. Elle est faite de cet accroissement de faim, de promesses toujours plus riches, ouvrant des perspectives nouvelles sur l'insaisissable. Elle s'alimente de fins innombrables, cette intentionnalité de la volupté, intentionnalité unique de l'avenir lui-même, et non pas attente d'un fait futur, a toujours été méconnue par l'analyse philosophique.
Les mollusques s'unissent en s'appuyant bouche contre bouche et en déployant leurs tentacules. S'ils s'unissent de cette façon, c'est par nécessité. En effet, la nature, en les repliant, a réuni vers la bouche l'extrémité qui est celle du résidu. Dans chacun des groupes de ces animaux, la femelle possède manifestement une partie utérine.
Dans le coïte, l'homme se rabaisse au niveau de l'animal. Non parce qu'il prend du plaisir, mais parce qu'il obéit à l'instinct de reproduction. Il existe un moyen d'échapper à cette triste destinée, c'est la philosophie. Si la plupart des philosophes furent célibataires, c'est pour témoigner que le but ultime de l'humanité n'est pas de se reproduire. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des paramécies, nous ne sommes pas des lapins. La philosophie est l'affirmation qu'il existe une façon non sexuelle de se perpétuer. Les héritages philosophiques se passent de gêne. Encore collectif secret qui défie le temps. Membres de ce lignage, les philosophes se reproduisent entre eux, sans sexe, par des moyens complexes qui s'appellent affiliation, agrégation, amitié. Leur matrice s'appelle école, banquet, salon, université.
Et pourtant, tandis qu'il se retirait en silence pour se lever et la quitter, elle s'accrocha à lui, terrifiée. « Ne pars pas! Ne pars pas! Ne me laisse pas! Ne sois pas fâchée contre moi! Tiens-moi! Tiens-moi fort !» murmurait-elle, en proie à une frénésie aveugle, sans savoir même ce qu'elle disait, et s'accrochant à lui avec une sorte de démence. C'est d'elle-même qu'elle voulait être sauvée. De cette rage, de cette résistance qu'elle sentait en elle-même. Et pourtant, quelle force dans cette résistance. Il la reprit dans ses bras et l'attira à lui. Et soudain, elle devint toute petite dans ses bras, petite et câline. C'était fini. La résistance était finie. Et elle commença à fondre en une paix merveilleuse. Et comme elle fondait merveilleusement et devenait toute petite dans ses bras, elle lui devint infiniment désirable. Toutes ses veines semblèrent brûler d'un intense et pourtant tendre désir pour elle, pour sa douceur, pour cette pénétrante beauté qu'elle avait dans ses bras et qui lui passait dans le sang. Et doucement, de cette merveilleuse et vertigineuse caresse de sa main animée d'un doux et pur désir, doucement, il caressait la pente soyeuse de ses reins, plus bas encore, entre ses fesses douces et chaudes, plus près encore de ce qu'il y avait en elle de plus vivant. Et elle le sentait, comme une flamme de désir, tendre pourtant, et elle se sentait fondre dans la flamme. Elle se laissait aller. Elle sentit le pénis se dresser contre elle avec une force extraordinaire, une silencieuse assertion, et elle se laissa aller à lui. Elle céda avec un frisson qui ressemblait à la mort. Elle s'ouvrit tout entière à lui. Ah, s'il n'était pas tendre envers elle maintenant, quelle cruauté! Car elle était ouverte à lui tout entière, et tout à sa merci. Elle frissonna de nouveau à cette entrée en elle, puissante, inexorable, si étrange, si terrible. Ce serait peut-être un coup de sabre dans son corps doucement ouvert, et alors elle mourrait. Elle s'accrocha à lui en proie à une soudaine et terrible angoisse. Mais ce fut une lente caresse de paix, la sombre caresse de paix, de puissante et primordiale tendresse. Comme celle qui crée le monde aux origines. Et la terreur s'apaisa dans sa poitrine. Sa poitrine se laissa aller en paix. Elle-même ne retient plus rien. Elle laissa tout aller. Elle se laissa à lui elle-même, tout entière, dans le flot. Et il lui sembla qu'elle était comme la mer, tout en sombre vague, s'élevant et se gonflant, en une montée puissante jusqu'à ce que, lentement, toute sa masse obscure fût en mouvement et qu'elle devint un océan roulant sa sombre masse muette. Et tout en bas, au tréfonds d'elle-même, les profondeurs de la mer se séparaient et roulaient de part et d'autre en longues vagues qui fuyaient au loin. Et toujours au plus vif d'elles-mêmes, les profondeurs se séparaient et s'en allaient en roulant de chaque côté du centre où le plongeur plongeait doucement, plongeait de plus en plus bas, de plus en plus profond, la touchant de plus en plus bas. Et elle était atteinte de plus en plus profond, de plus en plus profond. Et les vagues d'elles-mêmes s'en allaient en roulant vers quelques rivages d'elles sans découverte. Et de plus en plus près plongeait l'inconnu palpable. Et de plus en plus loin roulait loin d'elle les vagues d'elles-mêmes qui l'abandonnaient jusqu'à ce que, soudain, au nom de cette frémissante convulsion, le fluide même de son corps fut touché. Elle se sut touchée. Tout fut consommé. Elle disparut. Elle avait disparu. Elle n'était plus. Elle était née. Une femme. Trop beau, trop charmant. Dans le reflux, elle comprit toute cette beauté. Maintenant, tout son corps s'accrochait avec un tendre amour à l'homme inconnu et aveuglément au pénis défaillant qui, tendrement, faiblement, sans le savoir, se retirait après le furieux assaut de sa puissance. Comme il se retirait, chose secrète et sensible, et abandonnait son corps, elle poussa un cri inconscient, un cri de pure perte, et elle essayait de le remettre. Ça avait été si parfait, elle en avait eu tant de joie. Et maintenant seulement, elle comprenait la petitesse du pénis, sa délicatesse, sa réticence de bourgeon. Et un petit cri d'émerveillement et de douleur lui échappa encore. Le cri de son cœur de femme émerveillée par la délicate fragilité de ce qu'avait été la puissance. « Que c'est beau, gémit-elle, que c'est beau !» Mais il ne dit rien. Il l'embrassait seulement doucement, couchée sans mouvement sur elle. Et elle gémit avec une sorte de béatitude, comme une victime, comme une chose qui vient de naître. Et maintenant, dans son cœur s'éveillait l'étrange émerveillement qu'elle avait de lui, un homme. L'étrange puissance de la virilité sur elle. Ses mains erraient sur lui, encore un peu craintives, devant cette chose étrange, hostile, légèrement repoussante qu'il avait été pour elle. Un homme. Et maintenant, elle le touchait. Et c'était les fils de Dieu avec les filles des hommes. Qu'il était beau. D'un tissu si pur. Combien beau et charmant. Fort et pourtant pur et délicat. Quelle immobilité du corps sensible. Quelle absolue immobilité. L'immobilité de la puissance et de la chair délicate. Qu'il était beau. Elle lui glissa craintivement les mains le long du dos jusqu'au globe doux et serré des fesses. Beauté. Quelle beauté. Une nouvelle petite flamme de compréhension la traversa. Comment était-ce possible, cette beauté, la même où elle avait naguère senti tant de répulsion, l'ineffable beauté de ses fesses chaudes et vivantes qu'elle touchait, la vie dans la vie, la simple beauté puissante et chaude. Et le bois étrange de ses couilles entre ses jambes. Quel mystère. Quel bois étrange, lourd de mystère, qu'elle pouvait tenir ainsi doux et lourd dans ses mains. C'étaient les racines. La racine de tout ce qui est beau. La racine primitive de toute beauté complète. Elle s'accrocha à lui avec un soupir d'émerveillement qui était presque un soupir de crainte, de terreur. Il la tenait fort, mais elle ne disait rien. Il ne disait jamais rien. Elle se glissa plus près de lui encore, plus près, seulement pour être tout près de ce miracle qui était lui. Et du fond de son absolu, de son incompréhensible immobilité, elle sentit de nouveau la langue des fatales montées du phallus, de l'autre puissance. Et son cœur fondit et s'écroula dans une sorte de terreur. Et cette fois, la présence de l'homme en elle ne fut que douceur et chatouillement, si pure qu'elle devenait insaisissable. Tout son être frémit inconscient et vivant comme du protoplasme. Elle ne pouvait savoir ce que c'était. Elle ne pouvait se rappeler ce que ça avait été. Seulement, ça avait été plus délicieux que rien d'autre ne pourrait jamais l'être. Seulement cela. Après, elle resta entièrement tranquille. Entièrement sans connaissance. Elle n'aurait pu dire combien de temps. Et il était tranquille comme elle, plongé avec elle dans un insondable silence. Et de tout cela, il ne parlerait jamais.
Dans le rapport sexuel, se crée un corps qui est du côté du corps sans organes, c'est-à-dire un corps conçu non plus comme organisme, mais comme production du désir. Peut-être un corps double, sans individu, sans personne. La jouissance porte à ce point cette expérience de l'altérité comme altérité de corps qui ne sont plus conformes à leur organisation fonctionnelle. Une toute autre fonctionnalité s'est mise en place. On se regarde, mais plus de la même façon, et très vite, on ne se regarde plus, on se touche. Parfois, on peut être au bord de la blessure.
C'est au contraire une expérience solitaire. Elle n'est pas créatrice, c'est une perte de temps. Une femme peut facilement, bien plus facilement qu'elle ne pourrait le penser, se débarrasser de ses pulsions sexuelles et devenir suffisamment cérébrale et décontractée pour se tourner vers des formes de relations et des activités vraiment valables. Le sexe est un refuge des pauvres d'esprit et plus dans notre société, les femmes charmantes ont le plus haut cul. Mais comme elles sont atrocement charmantes, elles ne s'adressent pas à baiser. Elles font la loupe, elles communiquent avec leur corps, elles établissent un contact sensuel. Elle valse au rythme des roses, elle s'enfile l'univers entier, les disciples se fondent dans le transpérotique et fusionnent avec le cosmos. Et celle qui marche à la cible est vivante. Cinéma. On reproche par exemple aux actrices de simuler le plaisir. Elles sont là pour ça, elles sont payées pour ça, elles ont appris à faire. On ne demande pas à Britney Spears d'avoir envie de danser chaque soir qu'elle se produit sur scène. Elle est venue pour ça, on l'a payée pour voir, chacun fait son boulot et personne ne va en faire toi. Je crois qu'elle a fait semblant. Le porno devrait dire la vérité, ce qu'on ne demande jamais au cinéma, technique de l'illusion par essence. Et on demande précisément au X ce qu'on craint de lui, dire la vérité sur nos désirs. Je n'en sais rien, moi, du pourquoi c'est à ce point excitant de voir d'autres gens baiser en disant des saloperies. Le fait est que ça marche, mécanique. Le porno révèle crûment cet autre aspect de nous. Le désir sexuel est une mécanique, guère compliquée à mettre en branle. Pourtant, ma libido est complexe. Ce qu'elle dit de moi ne me fait pas forcément plaisir, ne cadre pas toujours avec ce que j'aimerais être. Et je peux préférer le savoir plutôt que tourner la tête et dire le contraire de ce que je sais de moi, pour préserver une image sociale rassurante.
Il lui demande pourquoi elle a accepté de venir dans la chambre. Elle dit que toutes les femmes auraient accepté, sans savoir pourquoi ses lignes sont blanches et désespérées. Qu'elle est comme ces femmes, qu'elle ne sait pas pourquoi. Elle demande, est-ce qu'il comprend quelque chose? Il dit qu'il n'a jamais rêvé d'une femme, qu'il n'a jamais pensé à une femme comme à un objet qu'on pouvait aimer. Elle dit, c'est une chose terrible. Jamais je n'aurais cru avant de vous connaître. Il demande si c'est aussi terrible que de ne pas croire en Dieu. Elle le croit. C'est le fait de l'homme indéfiniment présent à lui-même qui effraie. Mais ce doit être là qu'on est le mieux, le plus à l'aise pour vivre le désespoir avec ces hommes sans descendance qui ignorent être désespérés. Il lui demande si elle veut partir de la maison. Elle lui sourit. Elle dit que non, que ses cours n'ont pas repris à l'université, qu'elle a du temps pour rester là. Je vous remercie, elle dit. Mais non. Et puis, l'argent, je n'y suis pas indifférent. Elle lui dit de venir. Venez. Elle dit que c'est un velours, un vertige, mais aussi, il ne faut pas croire, un désert, une chose malfaisante qui porte aussi au crime et à la folie. Elle lui demande de venir voir ça, que c'est une chose infecte, criminelle, une eau trouble, sale, l'eau du sang. Qu'un jour il devra bien le faire, même une fois, fourragé dans ce lieu commun, qu'il ne pourra pas l'éviter toute sa vie. Que ce soit plus tard ou ce soir, quelle différence? Il pleure. Elle repart vers le mur. Elle le laisse à lui-même. Met la soie noire, le regarde à travers. Il attend qu'elle s'endorme.
Et puis, souvent, il le fait. Il va dans la partie fermée de la maison. Il revient avec un miroir à la main. Il va dans la lumière jaune. Il se regarde. Il fait des grimaces. Et puis, il se couche. Il dort tout de suite. La tête tournée vers le dehors. Sans bouger du tout. De crainte sans doute de ne s'approche encore. Il a tout oublié.
Peut-on caractériser ce rapport avec l'autre par l'éros comme un échec? Encore une fois, oui, si l'on adopte la terminologie des descriptions courantes, si on veut caractériser l'érotique par le saisir, le posséder ou le connaître. Il n'y a rien de tout cela ou échec de tout cela dans l'éros. Si on pouvait posséder, saisir et connaître l'autre, il ne serait pas l'autre. Posséder, connaître, saisir, sont des synonymes du pouvoir. D'ailleurs, le rapport avec l'autre est généralement recherché comme une fusion. J'ai voulu précisément contester que la relation avec l'autre soit fusion. La relation avec autrui, c'est l'absence de l'autre, non pas absence pure et simple, non pas absence de pur néant, mais absence dans un horizon d'avenir, une absence qui est le temps. Horizon où pourra se constituer une vie personnelle au sein de l'événement transcendant, ce que nous avons appelé plus haut la victoire sur la mort, et dont il faut nous dire, pour terminer, quelques mots.
L'imposition du tentacule du mal à travers l'ombre noire chez les poulpes a bien en vue l'union. Mais il n'est pas vrai que ce soit parce que le tentacule serait un organe utile à la génération, car il est extérieur au conduit et au corps du mâle. Les mollusques s'accouplent parfois aussi sur le dos. Mais l'observation n'a pas encore établi si c'est en vue de la génération ou pour une autre raison.
Philosopher, c'est s'affilier à des pères spirituels. C'est faire comme si on pouvait se passer de mère, se reproduire sans utérus, mais en esprit, sans semence, mais avec le pneuma. Est donc nécessaire une race spéciale de célibataires et de chastes individus qui décident de ne pas procréer, de refuser les joies douteuses du mariage et de se consacrer à la transmission des connaissances, c'est-à-dire à la culture. Sans ce genre d'hommes, l'humanité serait un vil troupeau sans mémoire autre que génétique, une espèce animale parmi d'autres, une simple volonté collective de persévérer dans son être et de proliférer.
Plusieurs fois, il lui avait donc retiré son pantalon. Mais elle s'était mise à crier comme si on l'eût violée, et il avait dû en rester là. Pour faire l'amour la nuit, elle le tolérait, mais sans y participer. Elle semblait résignée à l'irrémédiable, on ne voyait que sa peine, on ne sentait pas son plaisir. Pour les positions qu'il voulait lui faire prendre, elle ne souffrait que la façon la plus ordinaire. Elle ne se prêtait pas aux variations bizarres. S'il voulait la prendre une vagino, mais par derrière, elle disait avec dégoût que c'était une faute grave que de tourner le dos à son mari. S'il voulait qu'elle lui montât dessus, elle disait que c'était renverser les coutumes conjugales. Même pour lui faire mettre les jambes sur ses épaules, il devait dépenser une force à déplacer des montagnes. Quand elle atteignait l'instant suprême du plaisir, elle ne consentait pas à crier pour stimuler l'ardeur de son partenaire. S'il l'appelait « Mon cœur, ma chair », elle restait encore muette. C'était une vraie souffrance pour Wai Yen Cheng. Il se dit « Dommage qu'une si belle fille ne soit pas plus sensible au jeu du plaisir que si elle était faite de bois ou d'argile. Quel avantage y a-t-il à coucher à côté de son corps? Il ne me reste d'autre recours qu'à me donner le mal de l'initié, si je veux la changer. Il alla donc chez un libraire acheter un album de peinture licencieuse dû au pinceau de Tao Che Nang, qui comprenait 36 tableaux inspirés par le poème Tang, Le printemps règne sur les 36 palais. Qiu Xian, rougi jusqu'aux oreilles, était en colère. Où donc avez-vous pris cette ordure? La déposer ici, c'est souiller mon gynécée. Appelez vite une servante, qu'elle la brûle. Hua Yan Cheng, la retenant, je le garderai encore un jour ou deux pour me distraire, puis je le rapporterai. Qiu Xian, à quoi bon regarder une chose si contraire à la vertu pour cultiver sa nature? Qiu Xian était alors involontairement alléché, bien qu'elle ne la voie pas, son cœur déjà consentait. Involontairement, ses joues peu à peu s'encombraient, et ses sourcils apparaissaient, un air massif. Hua Yancheng se dit, elle commence à s'intéresser, mais il faut attendre pour la prendre. Elle n'en est qu'au début de l'excitation, sa faim n'est pas encore profonde. Si je la saisis d'un coup comme un homme affamé qui se jette sur la nourriture et la dévore sans la goûter, cela manquera de saveur. Je vais l'échauffer d'abord, la faire brûler un peu d'impatience, et ensuite nous monterons en scène. Alors, prenant un fauteuil, il s'assit, l'attira à lui, la fit s'asseoir sur ses genoux, puis ouvrant l'album de peinture, il les lui montra une à une. Cet album était différent des autres du même genre. Au recto, il y avait une peinture et au verso un commentaire, dont le premier paragraphe expliquait la scène de la peinture et le second vantait les qualités de l'artiste. Ces commentaires étaient dus à des lettrés célèbres. Hua Yancheng lui recommanda de bien se pénétrer du sens et de l'esprit des images pour se les proposer ensuite comme autant de modèles à imiter. Tout en les feuilletant, il lisait. Figure 1. Le papillon volette à la recherche des parfums de fleurs. Commentaire. La fille est assise, les cuisses écartées sur une roche au bord d'un étang du parc. Le garçon fraye à sa trompe un passage dans le calice dont il tâte et explore les profondeurs. Tous deux, qui viennent seulement d'engager le combat et qui sont encore fort éloignés du foyer de la volupté, offrent par expression de leur physionomie tant que par leur regard, de leurs grands yeux ouverts, un aspect à peu près sans trouble. Figure 2. L'abeille prépare son miel. Commentaire. La fille est couchée à la renverse sur des coussins de brocart, les jambes écartées et dressées en l'air, indiquant de ses doigts l'entrée du calice et guidant la trompe de son partenaire. L'expression de faim et de soif que présentent les traits de la fille, celle d'une excitation intense, les traits du garçon, voilà ce que l'artiste a rendu avec raffinement. Figure 3. L'oiselet égaré revient à son nid dans le fourré du bois. Commentaire. La fille est couchée légèrement sur le côté, l'une de ses jambes haut et élevée, ensevelie dans les coussins et se cramponne les deux mains aux cuisses de son partenaire, comme si le plus sujet du garçon se trouvait enfin au bon endroit, le plus sensible chez la fille, et qu'elle eut faim qu'il ne s'éloigne de nos chefs et ne regrette son aimance. De là que sur le visage en soi heureux de la fille, un soupçon d'anxiété se dégage. Impression de l'ensemble, les deux partenaires, de tous leurs esprits et de tous leurs âmes, s'abandonnent au frisson, s'accueillent et palpent. C'est vraiment là l'exploit du pinceau volant et de l'angle de l'ensemble. Figure 4. Le coursier affamé retourne au galop à son râtelier. Commentaire. La fille est allée à plat sur des coussins, tient entrelacé de ses deux mains le buste de son partenaire, serré contre ses seins. Le garçon, les pieds de la fille posés sur ses épaules, a entièrement plongé sa trompe dans le calice. Tous deux sont au seuil de l'extase. Seule une main de maître a su représenter ici tout ce qui agite au même degré deux âmes et deux corps. L'échange des regards mouvés sur les paupières mi-closes, l'enchevêtrement des langues, s'enroule et se dégage tour à tour. Figure 5. Les dragons sont hors de combat. Commentaire. La tête de la fille est de côté sur l'oreiller, ses mains ont glissé vers le bas, ses membres semblent ramollis comme du coton. Le garçon, la tête de côté sur la joue de sa partenaire, contre le corps de laquelle il presse le sien, semble lui aussi comme du coton. L'âme odorante s'est évaporée, le rêve au-delà de la cime se dissout. Les deux jambes de la fille reposent encore sur les épaules du garçon. N'était-ce comme un fil tendu de vie, dans l'un et l'autre, on pourrait les tenir pour morts, pour deux amants promis à un commun cercueil, à une tombe commune. Le tableau suggère au spectateur une idée du moment sublime, des voluptés épuisées. Arrivé à cette image et à son commentaire, Yu Qiang ne résista plus à l'excitation. Elle ne pouvait plus attendre. Et lorsque Hua Yangcheng tourna une nouvelle page pour la lui montrer, elle repoussa l'album et dit en se levant « À quoi bon de tels livres? Les regardez vous met hors de vous-même. Continue seul. Moi, je vais me coucher. » L'arrêtant, Hua Yangcheng dit « Mon cœur, il y a encore de belles scènes par la suite. Quand nous aurons fini de le regarder, j'irai me coucher avec toi. » Qui vient? On dirait qu'il n'y aura pas de lendemain pour y revenir, puisque tu veux à tout prix en finir aujourd'hui. Hua Yangcheng, comprenant qu'elle était fort impatiente, lui colla sa bouche sur la sienne. D'ordinaire, quand il voulait enfoncer sa langue, elle serrait les dents et ne le laissait jamais s'avancer. Depuis un mois qu'ils étaient mariés, il ne savait encore si la langue de Yu Qiang était courte ou longue. Cette fois, quand il appuya sur ses lèvres rouges, la langue pointue de Yu Qiang avait déjà franchi le fer de barrage de ses dents. Yu Qiang, Hua Yangcheng s'écria. Mon cœur, nous n'avons pas besoin de monter sur le lit. Prenons ce fauteuil pour une rocaille et imitons la scène représentée dans l'album. Qu'en penses-tu? Yu Qiang fut exprès de se formaliser et répondit. Est-ce là une façon de faire digne des humains? Hua Yangcheng. En effet. Seuls les dieux en sont dignes. Soyons donc semblables aux dieux.
Thank you.
nos fantaisies sexuelles parlent de nous, à la façon détournée des rêves. Elles ne disent rien sur ce que nous désirons voir arriver de facto. Il est évident que beaucoup d'hommes hétérosexuels bandent à l'idée de se faire mettre par d'autres hommes, de se faire humilier, sodomiser par une femme. De la même façon qu'il est évident que beaucoup de femmes mouillent à l'idée de se faire violenter, ganguer ou baiser par d'autres filles. On peut également être gêné face au porno, justement parce qu'il révèle qu'on est inexcitable alors qu'on se rêve en chaudasse insatiable. Ce qui nous excite ou pas provient de zones incontrôlées, obscures, et rarement en accord avec ce qu'on désire être consciemment. Suivi de douleurs excessives et d'une inflammation de tous les organes de la génération. Je me trouvais par hasard à la campagne, on me consulta. J'ordonnais des cataplasmes extrêmement émollients qui produisirent l'effet que j'en attendais, mais j'ai appris depuis qu'il était mort peu de temps après de la petite vérole. Je ne doute point que les atteintes qu'il avait portées à son tempérament par ses infâmes fureurs n'aient beaucoup contribué à rendre cette maladie mortelle. Quelle leçon pour les jeunes gens. Rien n'affaiblit autant que cette tension continuelle de l'esprit, toujours occupé du même objet. Le masturbateur, uniquement livré à ses méditations ordurières, éprouve à cet égard les mêmes maux que l'homme de lettres, qui fixe les siennes sur une seule question, et il est rare que cet excès ne nuise pas. Cette partie du cerveau qui se trouve alors en action, fait un effort qu'on pourrait comparer à celui d'un muscle longtemps et fortement tendu. Il en résulte une telle mobilité qu'on ne peut plus arrêter le jeu de cette partie, ni par là même détourner l'âme de cette idée. Et c'est bien le cas des masturbateurs, ou une incapacité d'action. Épuisés enfin par une fatigue continuelle, ces malades tombent dans toutes les maladies du cerveau. Mélancolie, catalepsie, épilepsie, imbécilité, perte d'essence, faiblesse du système nerveux et une foule de maux semblables. Un symptôme commun aux deux sexes, et que je place dans cet article parce qu'il est plus fréquent chez les femmes, c'est l'indifférence que cette infâme pratique laisse pour le désir de tout le mariage, bien même que le désir de force ne soit pas atteint.
Comme morsure existe. La caresse érotique, amoureuse, peut aller jusqu'à la griffure. Nous touchons là l'extrémité dangereuse, parce que les amants peuvent aller jusqu'à désirer se tuer l'un l'autre. Ce désir de partager une mort voulue ou subie est en toile de fond de la plupart des histoires d'amour, et pas seulement dans le monde occidental et chrétien. Certaines légendes chinoises, japonaises et même quechua racontent cette mort commune des amants. Dans ce désir de partager la mort, on retrouve l'idée de communauté, mais aussi celle de l'isolement. Parce que dans la mort, on sera aussi sûrement réunis que complètement séparés, y compris de soi-même. Je dirais donc que la jouissance est solitaire, dans la mesure où je suis aussi séparé de moi-même. C'est une solitude extrêmement difficile à attraper, une solitude par rapport à tout, sujet ou objet, donc par rapport à l'isolement même, une absolitude, si vous permettez.
Sort. Reviens, se retire, reviens ton corps. La machine de chair est prodigieusement exacte. Penché sur elle, immobile, vous la regardez. Vous savez que vous pourriez disposer d'elle de la façon dont vous voulez. La plus dangereuse, vous ne le faites pas. Au contraire, vous caressez le corps avec autant de douceur que si l'on courait le danger du bonheur. Votre main est sur le dessus du sexe, entre les lèvres qui se fendent. C'est là qu'elle caresse. Vous regardez la fente des lèvres et ce qui l'entoure, le corps entier. Vous ne voyez rien. Vous voudriez tout voir d'une femme, cela autant que puisse se faire. Vous ne voyez pas que cela vous est impossible. Vous regardez la forme close. Vous voyez d'abord les légers frémissements s'inscrire sur la peau, comme ceux justement de la souffrance, et puis ensuite les paupières trembler, tout comme si les yeux voulaient voir, et puis ensuite la bouche s'ouvrir, comme si la bouche voulait dire, et puis ensuite vous percevez que sous vos caresses, les lèvres du sexe se gonflent et que de leur velours sort une eau gluante et chaude comme serait le sang. Alors vous faites vos caresses plus rapides. Vous percevez que les cuisses s'écartent pour laisser votre main plus à l'aise, pour que vous le fassiez mieux encore. Et tout à coup, dans une plainte, vous voyez la jouissance arriver sur elle, la prendre tout entière, la faire se soulever du lit. Vous regardez très fort ce que vous venez d'accomplir sur le corps. Vous le voyez ensuite retomber, inerte, sur la blancheur du lit. Il respire vite, dans des soubresauts de plus en plus espacés. Et puis les yeux se ferment encore plus. Et puis il se scelle plus encore au visage, et puis il s'ouvre, et puis il se ferme. Vous avez tout regardé. À votre tour, enfin, vous fermez les yeux. Vous restez ainsi longtemps, les yeux fermés, comme elle.
rencontre.
Je me souviens de toi.
Cette ville était faite à la taille de l'amour.
Tu étais fait à la taille de mon corps même.
Qui es-tu?
Tu me tues.
J'avais faim. Faim d'infidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir.
Depuis toujours.
Je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus.
Je t'attendais dans une impatience sans borne, calme.
Dévore-moi. Déforme-moi à ton image, afin qu'aucun autre après toi ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs.
Nous allons rester seuls, mon amour.
La nuit ne va pas finir.
Le jour ne se lèvera plus sur personne.
Jamais. Jamais plus. Enfin.
Tu me tues.
Tu me fais du bien.
Nous pleurerons le jour des fins, avec conscience et bonne volonté.
Nous n'aurons plus rien d'autre à faire, plus rien que pleurer le jour des fins.
Du temps passera, du temps seulement.
Et du temps va venir.
Du temps viendra, où nous ne saurons plus du tout nommer ce qui nous unira. Le nom s'en effacera peu à peu de notre mémoire.
Puis il disparaîtra tout à fait.